En séance. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Madame, Monsieur, bonjour. Le lundi 23 janvier 2006, Philippe Bilger, avocat général près la cour d'assises de Paris, a donné lecture devant l'Académie des sciences morales et politiques de sa communication intitulée « Le jury populaire, source d'erreurs ou de bonne justice ». Il faut répondre clairement à cette alternative. Les conditions pour être juré sont minimales et ne garantissent pas sa qualité personnelle. Ce qui a constitué un changement décisif, c'est par la loi du 28 juillet 1978, le passage d'un jury de notables à un jury populaire. La conséquence en a été que le lien naturel et évident entre une magistrature conservatrice et un jury imprégné des mêmes valeurs a été rompu. Les présidents de cours d'assises ne peuvent plus prétendre imposer à des jurys informés et peu dociles un pouvoir sans limite. S'il y a des jurés médiocres, le délibéré va les noyer dans la majorité qui comporte parfois quelques personnalités à l'écoute exceptionnelle. L'erreur judiciaire est mise à toutes les sauces. Il ne faut pas confondre l'acquittement, consécration de l'innocence, et celui qui tire les conséquences du doute. Les défauts du jury sont peu de choses par rapport aux avantages qu'offre sa fraîcheur et sa passion de comprendre. Les jurés redonnent toute sa place au barreau et obligent l'accusateur à sortir des sentiers battus. Seule une personnalité authentique et sincère peut les convaincre. Les mots contre la mort, une légère dépression à la fin de chaque session est inévitable. Voici résumés les propos de Philippe Bilger, avocat général près la cour d'assises de Paris. Nous rejoignons la salle des séances pour entendre sa communication.
Monsieur le chancelier, monsieur le président, monsieur le secrétaire perpétuel, mesdames, messieurs, permettez-moi d'abord de faire spontanément trois observations. La première, c'est de vous remercier pour l'honneur que vous me faites en m'invitant dans cette assemblée prestigieuse. La deuxième est inspirée d'emblée par mon mauvais esprit. Les nombreuses demandes d'excuses présentées, j'espère qu'elles ne sont pas la conséquence inattendue et imprévisible de la catastrophe d'Outreau qui ferait qu'une suspicion généralisée s'attacherait à tous les magistrats, quel que soit leur rôle et leur statut. La dernière, elle est également pour vous remercier. La procédure de votre assemblée fait que j'ai dû remettre un texte écrit de mon intervention et je vous sais gré de me permettre, pour une fois dans mon existence professionnelle, le confort d'un texte écrit. J'espère qu'il n'entraînera pas cet ennui distingué qui naît parfois dans les têtes des auditeurs lorsque l'oralité n'a pas le courage de s'affronter avec elle-même. Mais j'espère tout de même vous empêcher, rien que par le ton de ma voix, de vous endormir délicieusement et délicatement. Le jury populaire, source d'erreurs ou de bonne justice. Il serait trop simple, devant cette alternative, de se servir une nouvelle fois de la langue d'Ésope, la meilleure ou la pire des choses. Ce serait trop simple et peu courageux. Une autre forme de confort serait peut-être d'aller dans un subtil mais traditionnel balancement vers une synthèse facile qui présenterait le jury comme une source d'erreur et de bonne justice. Il me semble qu'au contraire, l'exigence intellectuelle et l'honnêteté doivent me conduire à choisir et à tenter de vous faire partager ma conviction après avoir mis en regard les uns des autres les avantages et les inconvénients communément allégués au sujet du jury. Aujourd'hui, pour être juré, il suffit d'être âgé d'au moins 23 ans, de savoir lire et écrire et de n'être pas privé de la jouissance de ses droits politiques, civils et de famille. Cette base est minimale, qui ne garantit pas à l'évidence la qualité du juré, mais formule les critères élémentaires à partir desquels sa valeur personnelle pourra librement s'extérioriser. On ne peut nier la formidable évolution qu'a entraînée la loi du 28 juillet 1978, se fondant sur la sélection des jurés, sur la liste électorale et répudiant donc l'écrémage civique d'avant. On est passé, si j'ose l'expression, d'un jury de notables perçu comme élitiste à un jury populaire. On a remplacé la sélection par le brassage. C'est une autre philosophie qui a pris la relève et un tel mouvement ne pouvait pas ne pas avoir d'incidence sur le cours de la chose criminelle. La conséquence essentielle en est, à mon sens, et je ne cesse pas d'en constater les effets, que le lien n'est plus naturel ni évident entre une magistrature traditionnellement conservatrice et prise de l'ordre et de la tranquillité publique et des jurés que leur origine sociale, leurs conditions d'existence, leur métier et leur âge rendent infiniment divers et souvent contrastés. À des groupes homogènes, s'est substitué le hasard d'un assemblage dont l'unité résulte seulement de sa participation à une même mission judiciaire. Les causes n'ont jamais été entendues en dépit des critiques souvent faites par des avocats ayant perdu leur procès. Combien de fois ai-je dû supporter cette antienne de mauvais joueurs, ressassant que les jeux étaient faits à l'avance, si le débat criminel peut supporter d'être assimilé à un jeu, alors qu'il est tout sauf cela, qu'il n'est pas non plus du théâtre, mais un rituel, une tragédie en mouvement, une convention peut-être, mais que la vie brute et le parler vrai font exploser. Aujourd'hui, moins que jamais, les causes ne sont déterminées à l'avance. La justice a toutes ses chances au point que parfois la vérité semble être battue en brèche par le mensonge dont le seul mérite est de mettre du sulfureux dans l'évident et de la contradiction dans le trop simple. La conviction que l'accusateur cherche à transmettre passe par le filtre d'un hasard tellement palpable, de subjectivité si peu maîtrisable, que tout pronostic devient impossible et que l'aléa règne en maître sur l'empire de la cour d'assises. La certitude ne reprend ses droits que si la conjugaison de l'horreur, du ou des crimes, avec l'indignation de l'opinion publique et des médias, rend inéluctable la sanction suprême et permet tout au plus, mais c'est déjà beaucoup, de tenter de comprendre, grâce au débat lui-même, par quel étrange détour l'humain est passé pour aboutir à de l'intolérable. Le jury populaire, avec son imprévisibilité et sa liberté, n'a plus rien de commun avec la caricature qu'on s'est longtemps plu à présenter et qui pouvait se résumer par une absolue dépendance d'un côté et une totale domination de l'autre. Le reproche était fait aux magistrats, principalement au président, auquel la procédure assigne un rôle clairement hégémonique, de laisser se dégrader leur savoir en pouvoir qui ne pouvait qu'en imposer aux profanes. Cette vision était déjà trop primaire avant 1978 pour pouvoir être acceptée sans réserve, mais depuis les années 80, même avec des présidents à la personnalité affirmée, le débat relève d'une joute et d'échanges équilibrés qui, s'il y avait méconnaissance des règles qui fondent un vrai dialogue, tournerait en affrontement et j'en suis persuadé à la victoire médiatique du jury. Si je fais référence aux médias, c'est que, pour le pire et le meilleur, ils ont façonné des citoyens qui, à cause de l'importance donnée depuis plusieurs années maintenant aux faits divers, aux crimes les plus graves, au dysfonctionnement de la justice, n'arrive plus à la cour d'assises totalement ignorant et complètement vierge sur le plan qui va les préoccuper durant la session. Même si le juré lambda n'a généralement aucune culture juridique et en cela il est révélateur d'un manque qui affecte toutes les strates de la société. Il n'est donc personne qui arrive pour sa mission de juger sans aucune notion ni connaissance de l'humus judiciaire. Certes, c'est de la superficialité, mais elle donne un vernis qui résiste et rend le juré imperméable à une volonté qui prétendrait le réduire à rien parce qu'il ne saurait rien. Ces mêmes médias où sont présents au cours de l'audience quand l'affaire les a mobilisés, ou sont en quelque sorte dans la tête des jurés tirés au sort, qui sont des citoyens lisant rarement les journaux, écoutant un peu plus la radio et regardant beaucoup la télévision. Aussi, tout ce qui serait de nature dans le cours d'un délibéré a créé de la suspicion sur sa loyauté, a révélé une emprise choquante et une influence perverse de la part des magistrats, ne manquerait pas d'avoir des retombées médiatiques, les jurés n'ayant plus une conception absolue du secret auquel ils sont tenus. Je suis sûr qu'ils n'hésiteraient pas, dans de telles circonstances, à se muer en justicier, faute d'avoir pu être pleinement des juges. On a connu déjà des affaires où des jurés, le verdict ayant été rendu, ont dénoncé ce qu'ils estimaient être des pressions. On ne fait plus ce qu'on veut avec les jurés. Toute stratégie de conviction qui s'attacherait à réunir le jury et la magistrature par une solidarité automatique se verrait récusée et manquerait sa cible. Ce n'est pas une collectivité qui doit être globalement persuadée, mais la parole doit être adaptée à chaque auditeur par un affinement constant. Pas plus qu'on ne peut faire cheminer avec soi un jury en usant du décret d'autorité, c'est vrai parce que je le dis, on ne peut le manipuler pour le contraindre à prendre une décision de sévérité ou de mansuétude devant laquelle, en majorité, il renâclerait. Certes, dans ce tableau magnifiant l'indépendance et la qualité des jurys, quelques ombres parfois. On en voit qui sont décalés, dépassés, qui baillent aux corneilles et ne prennent aucune note. Ils sont trop vite épuisés après une concentration même de courte durée. Focaliser sur ces quelques exceptions, c'est se laisser envahir par un sentiment d'échec prévisible et de défi impossible à assumer. Plutôt que de m'abandonner à ce pessimisme, j'ai longtemps préféré, par une démarche que je sais aujourd'hui absurde, désigner ces mauvais jurés pour les stigmatiser, espérant les éveiller dans tous les sens du terme, et les dissocier de la masse exemplaire qui, elle, bien sûr, allait se sentir flattée d'être implicitement louée et donc suivre naturellement mes excellentes réquisitions. Pour être franc, mon comportement n'était pas aussi ostensiblement intéressé, mais il n'était pas loin d'une telle approche. Surtout, je présumais que ma sincérité brutale, dont vous avez peut-être vu tout à l'heure un autre exemple, serait porté à mon crédit. Comment quelqu'un capable de se battre pour de dérisoire sans rien farder pourrait-il mentir sur l'essentiel ? Cette démarche, je l'ai dit, était absurde et inutile. Car si la mauvaise monnaie chasse la bonne, le bon juré à rebours chasse le mauvais. La médiocrité est noyée dans la majorité et le délibéré de plusieurs heures neutralisera le pire pour garder le meilleur. Les ombres que j'évoquais plus haut sont souvent compensées, et dans le même jury quelquefois, par ce que je pourrais appeler le système des piliers et qui est réconfortant pour l'intelligence qui a toujours besoin de trouver un ancrage sûr. Ces piliers, ce sont un ou deux jurés qu'offre le hasard du tirage au sort et qui viendront, avec leur visage, le mouvement de tout leur être, leur personnalité à la fois attentive et stimulante, vous persuader du caractère irremplaçable de leur présence et de leur écoute. Hommes ou femmes, ces rocs d'humanité et de lucidité sur lesquels on s'appuie les yeux et l'esprit ouverts soulagent au moment même où la tension de convaincre vous occupe, apporte de la certitude au milieu des interrogations que vous avez le devoir de formuler pour y répondre ou pour les accepter comme telles. Vraiment, le délibéré gardera-t-il le meilleur ? Il convient devant votre assemblée de ne pas être dupe de soi. Même lorsqu'on affirme être possédé par l'orgueil de précéder et non par la valignité d'être suivi, et qu'on affiche une indifférence trop ostensible pour être authentique, il reste quelque chose, un rien, un dépit, une aigreur, quand l'arrêt diffère substantiellement de ce qu'on a requis. Quand le coupable est mal condamné, trop ou trop peu, quand l'accusé qu'on sait coupable est acquitté, et par ailleurs, mais c'est un autre registre, infiniment plus dramatique, j'espère, pour ma part, n'avoir jamais mis la main ni l'esprit dans la condamnation d'un innocent. La déception de l'accusateur ne se trouve pas toujours là où on se plaît à la placer à cause d'une perception trop traditionnelle de son comportement. Je sais bien que de manière absurde, notre système est ainsi fait et nos habitudes de pensée que l'avocat général fortement désavoué à la baisse par un jury gardera l'estime de ses pairs, tandis que celui largement dépassé par l'arrêt sera considéré avec condescendance et un vague mépris comme s'il avait manqué de virilité judiciaire. Alors que le premier peut-être aura pris des réquisitions outrancières et que le second aura vu juste. Ce point est important et quelquefois mal compris par des jurés qui attendent qu'on ressemble à sa caricature médiatique et ou artistique, si Monsieur Jean Tullard veut bien me concéder ce point. Le couteau entre les dents en quelque sorte. Or, l'avocat général, si la culpabilité est démontrée, est un magistrat qui requiert telle peine parce qu'en deçà, elle serait trop faible et qu'au-delà, elle serait trop dure. On a du mal à accepter que l'accusateur se fixe aussi pour principe de mettre en garde contre le trop et pas seulement contre le trop peu. Il me semble difficile, à ce point de mon propos, de ne pas aborder ce que les avocats, appuyés généralement par les médias, qui préféreront toujours une absurdité dérangeante à une vérité banale et plate, ressassent sur l'erreur judiciaire. J'ai souvent été attaqué sur ce plan à cause de certaines de mes interventions. Je maintiens et je confirme que l'erreur judiciaire mise à toutes les sauces et définie de manière indistincte ne veut plus rien dire. Je maintiens que toute condamnation qui ne plaît pas n'est pas de ce fait même une erreur judiciaire. Je maintiens aussi que des acquittements peuvent indigner, mais qu'ils ne constituent pas nécessairement, en raison de cette hostilité, une erreur judiciaire. Je maintiens que je me fais fort demain, avec l'appui de quelques intellectuels de renom et force pétition, de créer de toutes pièces le mythe d'une erreur judiciaire, même avec un accusé qui aura tout reconnu à l'audience. En chacun, et pas seulement en Jean-Marie Rouard, il y a un petit Zola qui sommeille et qui ne choisit pas toujours, lui, les bonnes causes. Je maintiens que je n'ai aucune raison de croire à l'innocence de quelqu'un parce que les médias, invitant mis en cause et avocats avant le premier procès ou l'appel, veulent m'imposer par la dictature de l'émotion, une certitude qui n'a pas encore été démontrée judiciairement selon les garanties et la procédure qu'appelle une bonne justice. Je maintiens que si l'accusé acquitté a toute raison de se dire innocent, je ne suis pas obligé de mêler l'acquittement nécessaire parce qu'on donne au doute la place qui lui revient et l'acquittement consécration de l'innocence parce qu'une autre personne sera interpellée, poursuivie et condamnée pour les mêmes faits. Je connais, j'ai connu, comme vous, de véritables erreurs judiciaires et je suis très heureux que notre justice aujourd'hui assigne une place plus importante au doute et à l'incertitude. L'innocence est trop belle pour être ainsi dévoyée et recouvrir n'importe quel pavillon. L'accusateur a la charge d'affirmer non seulement la culpabilité et l'innocence véritable lorsqu'au détour d'une audience il la rencontre, mais aussi le doute et l'incertitude qui imposent eux aussi l'acquittement. C'est élargir l'éventail au lieu de le réduire. Combien d'avocats plaident d'ailleurs souvent, n'est-ce pas Maître Le Borne qui est dans la salle et qui me fait l'honneur d'être là, déclarent d'ailleurs souvent qu'il ne s'agit pas de déclarer leur client innocent parce que personne n'était présent sur les lieux du crime, mais seulement de tenir compte des preuves insuffisantes et d'acquitter au bénéfice du doute. Et ces avocats qui plaident cet argument ont raison de le plaider. Mais force est de reconnaître que ce pincement de l'esprit, ce dépit, cette aigreur que j'évoquais plus haut, cette vulgaire réaction d'amour-propre après un arrêt discordant s'apaise très rapidement et ce qui choquait dans l'instant apparaît ensuite nimbé d'une sagesse supérieure. D'une part, cela vient de la perception exacte de ce qu'est l'intime conviction. Celle-ci, en effet, ne représente pas par une contraction rapide et abusive des termes une impression qui jetterait selon l'humeur les jurés et les magistrats sur tel chemin plutôt que sur tel autre. Non, si on se rapporte à l'étymologie latine, l'intime conviction doit représenter une certitude, une assurance, mais personnelle, enclose dans le fort intérieur et n'appelant que la motivation résultant du dialogue que l'intelligence de chacun doit entretenir avec sa sensibilité. Ce n'est pas parce que la motivation des arrêts criminels n'existe pas que les décisions des cours d'assises sont forcément jouées au dé, comme ont l'air de le croire un certain nombre de chroniqueurs judiciaires qui ne cessent pas de s'étonner de condamnations pourtant directement inspirées par les débats. D'autre part, et c'est le point essentiel, les délibérés criminels, outre la garantie de leur durée, offrent celle de la certitude rassurante qu'on n'y a évoqué que l'affaire, qu'on n'y a parlé que d'elle, que tout a été passé au crible dans une sereine et libre contradiction et qu'aucun argument n'a échappé à la lucidité collective. Rien à voir avec les délibérés correctionnels, où on dit pour rire, mais c'est un rire jaune ou noir que le président a toujours au moins une voix d'assurée, celle de l'un des deux assesseurs qui attend de parler après lui pour être sûr de s'accorder avec lui. Ce qui, à mon sens, justifie tout de même cette absence de motivation, c'est que le contraire, insensiblement, rapprocherait les audiences criminelles des correctionnelles. En outre, même si l'intime conviction renvoie, comme je l'ai dit, à un socle dur de certitude malaisé à traduire dans un arrêt qui devrait aller au plus près de la délibération collective, reste que celle-ci peut aussi légitimement s'articuler sur d'autres éléments plus volatiles ou psychologiques qui, tels que le rapport des accusés entre eux, leur manière d'être, de répondre et d'assumer ou non leurs responsabilités face à leurs juges. L'absence de motivation donne ainsi une totale liberté aux jurés pour enrichir leurs convictions aussi avec des données périphériques et extrinsèques non négligeables. À supposer que ce défaut de motivation, comme le soutiennent certains avocats, constitue un vice, on peut penser que l'appel criminel instauré en 2000 puis complété en 2002, on est passé d'une seconde chance pour l'accuser à un véritable appel, en pallie largement les effets négatifs. Je ne crois pas, puisque j'évoque l'appel si ardemment voulu par le barreau et dont la proportion se stabilise au plus 3 sur 10 arrêts, que ce degré dit supérieur, 12 jurés au lieu de 9, ait changé radicalement la donne. Les confirmations demeurent largement majoritaires. La seule difficulté provient du rapport malaisé qu'entretiennent les deux instances. Le procès en appel est censé tout remettre à plat, mais on sent que le procès antérieur, par les réponses qu'il a données et l'arrêt rendu, pèse encore et viendra troubler sans doute la perception du second jury. D'où l'absolue nécessité, à mon sens, sauf circonstances exceptionnelles, de résister à la tentation technique de confier au même accusateur la charge de requérir. Ce serait amplifier une confusion qu'il faut au contraire abolir ou au moins réduire. Quitte à avoir un appel, j'étais l'un des rares à y être défavorable, même si j'admets aujourd'hui qu'il donne sa chance à cette étincelle de doute qui doit être instillée par méthode, même dans la certitude la plus assurée, autant qu'il joue pleinement son rôle, cet appel. Le jury, alors, erreur ou bonne justice? Il me semble que l'analyse que j'ai tentée, même si elle se conclut en mêlant plus de lumière que d'ombre, par un seul de bénéficiaires, a oublié tout de même l'essentiel. C'est le jury lui-même, par comparaison avec la magistrature professionnelle. Certes, je ne méconnais pas les critiques traditionnelles sur ces juges populaires confrontés à une mission civique d'une extrême difficulté et, selon certains, trop soumis à leur subjectivité et aux émotions vulgaires. Pour vouloir mettre en cause le profane appelé à trancher les affaires pénalement les plus graves, n'oublie-t-on pas précisément la richesse qu'apportent ces citoyens avec leur fraîcheur de vue, l'abandon des stéréotypes et le refus des évidences. Leur discussion permanente de ce qui nous semble souvent incontestable, par exemple la force d'aveu même rétractée ou le préjugé favorable donné à l'enquête de police et à ses constatations, est une chance plus qu'une faiblesse. Est-on bien sûr que les défauts d'un jury, les risques qu'une audience criminelle doit affronter à cause de ce peuple tiré au sort, soient si différents de ceux qu'une justice ordinaire rencontre ou se doit de surmonter? Je me permets à cet instant de souligner que la perception du jury ne peut pas être dissociée, chez moi, pour parler pompeusement, d'une vision plus large qui constitue le citoyen comme l'alpha et l'oméga d'une justice qui saurait s'enivrer moins, en autarcie, de la perfection formelle de ses démarches juridiques que répondre vite et bien à l'attente d'une société qui a des droits sur nous. Ce citoyen, on le considère trop souvent comme un gêneur. Les jurés représentent un barrage quotidien contre cet élitisme de mauvais aloi et si peu démocratique. En tout cas, comment oublier l'éclatante sensation d'exister pour un avocat général quand 10 mois sur 12, au gré des multiples diverses affaires qui lui sont confiées, il est chargé d'entretenir une relation de conviction et de confiance avec des inconnus qui, à la fin de la session, ne le seront plus et repartiront vers leur destin quotidien, plus lourd, plus triste ou plus ouvert, en tout cas clairement métamorphosé. Comment, en dépit de quelques déceptions ponctuelles ou tel comportement qui, une seconde de mélancolie, vous fait douter de votre passion pour cette justice rendue par le peuple, oubliez la charge de sensibilité et d'intelligence, d'explication et de compréhension qu'impose heureusement un jury. Celui-ci, en effet, demeure indifférent à la hiérarchie formelle du lieu et des rôles. C'est ce qui fait que la cour d'assises, grâce au jury, redonne toute sa place au barreau. Ce qui n'est plus écouté par les magistrats est entendu par les jurés. Ce qui lasse le professionnel peut enthousiasmer le profane. Alors que la répétition fait perdre sa saveur au discours, l'oreille du juré, qui le perçoit pour la première fois, en est stimulée et son esprit s'enchante de poncif qui, après tout, comme les lieux communs selon Proust, peuvent être porteurs de vérité. Il me semble même qu'après des cataclysmes comme Outreau, la magistrature n'est pas loin de pâtir d'un handicap et la défense d'une adhésion, d'une approbation de principe. Mais pour peu que le débat reste équilibré et soit présidé de manière équitable, l'accusateur sent que ses armes habituelles ne suffisent pas ou plus, que l'éloquence et la forme ne sont pas décisives et qu'il lui convient seulement, mais c'est sa vie qui se joue à cet instant, de jeter sa conviction, sa sincérité, sa démonstration et sa personnalité tout entière dans l'un des plateaux de la balance, en espérant toucher le cœur et l'esprit de ceux qui écoutent. Ces jurés ont été, sont ces juges, en même temps que ceux de l'accusé. Scott Fitzgerald soutenait qu'écrire, c'était tout dire dans chaque paragraphe avant de mourir. Il y a quelque chose de cette extrémité dans un réquisitoire digne de ce nom, devant un jury populaire. C'est moins un discours qu'un flux de vie, une coulée d'existence, l'affirmation de soi et un désir de totalité. C'est tenter d'édifier un barrage contre le cours inéluctable du temps, les mots, l'acharnement d'être et de convaincre contre la mort. Il me semble qu'il y a des exaltations plus médiocres. Les jurés devant nous, si proches de nous, nos frères en humanité, tout comme l'accusé, donnent trop de sens à la fonction qu'on exerce et de prix aux instants qu'on habite et qui finit, laisse vide et désemparé pour qu'on hésite devant l'alternative. Oui, décidément, le jury est une source de bonne justice si nous acceptons de placer dans le contenu de cet adjectif l'excellence professionnelle, la compréhension de cœur, la rigueur intellectuelle, la passion de l'humain, mais aussi les limites inévitables de l'humanité professionnelle ou novice lorsqu'elle est appelée à accomplir cette tâche nécessaire et redoutable, juger les crimes de son prochain. Je suis sûr qu'après ce propos, vous ne vous étonnerez pas si j'évoque la légère dépression qui s'insinue en moi la veille de chaque début de session, le lendemain de chaque fin de session. Il est si dur de quitter ou de reprendre pied dans l'existence ordinaire dans le pays des honnêtes gens. Je vous remercie pour votre attention.
C'était Maître Philippe Bilger, avocat général près la Cour d'assises de Paris, qui donnait lecture devant l'Académie des sciences morales et politiques de sa communication intitulée « Le jury populaire, source d'erreurs ou de bonne justice ».